Très chers auditeurs et auditrices, bonjour à vous et bienvenue dans cette quatrième critique littéraire de Samad. Non pas mon livre favori, mais toutefois selon moi le plus grand roman, je dis bien le plus grand roman de la littérature française. L'incontournable dont tous connaissent au moins le nom, j'ai nommé Les Misérables d'un auteur sans égal, qui n'est autre que le grand écrivain, romancier, poète, dramaturge et homme politique français, le grandiose Victor Hugo. Chef-d'œuvre. Que dire de plus? Cela va sans dire, le titre suffit. Les Misérables, cela évoque tant de choses. Après Notre-Dame de Paris, Le Rouge et le Noir et Germinal, nous attenons maintenant à une sublime, grande et belle histoire, une histoire française. Les Misérables, œuvre dont nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous avons trouvé une trace écrite des notes de Victor Hugo sur ce roman, dans laquelle il écrit ces quelques mots. Histoire d'un saint, histoire d'un homme, histoire d'une femme, histoire d'une poupée, ce qui forme, si vous voulez, l'architecture du roman. Les Misérables, c'est tant de personnages devenus cultes et emblématiques, tant de personnages entrés dans la culture française, tant de personnages que même ceux qui ne l'ont pas lu connaissent, tant de personnages dont simplement l'évocation du nom nous procure je ne sais quelle émotion et sentiment, dont aucune langue humaine ne peut décrire. Mais qui sont donc ces Misérables? Eh bien, ce sont les quelques Jean Valjean, Fantine, Cosette, Gavroche et ses frères, Marius, les Thénardier, Javert, Azelma, Éponine et j'en passe. À l'origine nommé Les Misères, il serait renommé par l'auteur en Les Misérables. Et je crois que c'est une très bonne initiative, car ce sont réellement ces personnages qui font le roman. L'histoire du roman Fleuve, vous la connaissez, elle est si célèbre. Rappelons tout de même les grandes lignes de celui-ci. Quelques mots ne peuvent pourtant pas suffire à raconter ce qu'est Les Misérables, pour cause ces intrigues si vastes, si monumentales, et pourtant, même s'il y a beaucoup de scènes épiques, ces Misérables n'ont rien de grandiose, mais pourtant, grandioses ils le sont. Certes aux antipodes du héros médiéval, dithyrambique et parfait, mais si réel et si beau. L'histoire, en somme, de cette fresque sociétale se concentre, et les personnages également, autour de Jean Valjean, ce forçat en marge de la société, devenant notre fameux et bien-aimé forçat repenti. Semant le bien, dont on suit le développement et le parcours de sa rédemption jusqu'à sa mort, l'histoire se concentrant sur la période entre 1815, qui correspond à la défaite de Waterloo et la chute de Napoléon Ier, et 1832, les émeutes de Chouan. C'est donc l'histoire d'un forçat condamné au bagne, aux galères, durant 19 ans, pour avoir volé du pain. Et puis avoir tenté de s'évader. Oui, 19 ans, cela paraît fou, improbable, déconcertant et exorbitant. En réalité, cette société met en prison tous les misérables, indésirables, marginaux de la société dont elle rêverait de s'en débarrasser. Mais l'ambiance, et ce n'est pas tout, vous le verrez. Bienvenue dans le 19e siècle que Hugo dénonce. Ce Jean Valjean, donc, une fois sorti, une fois avoir été hébergé aimablement par Monseigneur François Bienvenu Myriel, évêque de Digne se comportant comme un vrai chrétien, comme un vrai homme de foi, et qui est bon, vole celui-ci. Mais sous son impulsion, après l'avoir sauvé des gendarmes et pardonné, il se repentit et devient homme de bien. Tout au long des 5 tomes, il essaye d'améliorer la condition de plusieurs protagonistes dont on suit le parcours et les péripéties depuis le début, et dont leur sort, par hasard, seront liés à Jean Valjean, tous ayant la particularité d'être misérables ou vivre dans la pauvreté. Vous retrouverez parmi ce florilège de personnages gravitant autour de lui, à titre d'exemple, Fantine, femme astreinte par la pauvreté pour faire vivre sa fille à vendre son corps, au sens propre comme au sens figuré. Oui, elle ira jusqu'à vendre ses dents ou ses cheveux et se prostituera, la rendant dans un état abominable. Essayant, tant bien que mal, à donc faire vivre sa fille, qui n'est autre que Cosette, chez un couple atroce d'aubergistes, les Thénardier, l'exploitant et la maltraitant, avant de se faire sauver de leurs griffes par Valjean, qui dorénavant l'élève et la prend sous sa tutelle, alors que Fantine est morte. Également Gavroche, fils abandonné des Thénardier, errant dans les rues de Paris, archétype du gamin de Paris, alors que ses deux frères se retrouvent à la rue après l'arrestation de leur mère adoptive, il les recueille sans même savoir de qui il s'agisse réellement. Il mourra tel un héros durant les émeutes. Aussi, nous avons Azelma et plus principalement Éponine, qui est sœur de Gavroche, archétype cette fois-ci de la misère de l'enfant. Elle est amoureuse de son voisin de Mazure, ce personnage est Marius, qui lui aime Cosette. Malgré qu'elle tentera de les séparer, ne voulant pas voir Marius malheureux, n'hésitera pas après l'avoir attiré puis suivi jusqu'à une barricade de l'insurrection du 5 juin 1832, à s'interposer entre lui et le soldat qui le visait pour mourir à sa place. Marius, quant à lui, autre grand personnage dont on suit les péripéties de son père à la bataille de Waterloo, plus tard, Marius, son fils, lui, est éperdument amoureux de Cosette. Valjean le sauve durant les émeutes alors qu'il avait rejoint un groupe révolutionnaire, notamment craignant la tristesse de Cosette s'il venait à mourir, alors qu'il se trouvait gisant sur le sol. Il l'emporte dans les égouts où ils suivent plusieurs mésaventures. Cosette et Marius se marieront. Jean Valjean s'effacera peu à peu de la vie du couple, encouragé par Marius qui voit en lui un malfaiteur et un assassin. Marius n'est détrompé par Thénardier que dans les dernières pages du roman et, confus, assiste avec Cosette aux derniers instants de Jean Valjean. Tout au long du roman, Jean Valjean est traqué par un intransigeant et inflexible inspecteur de police, Javert. N'acceptant pas sa rémission, Valjean est contraint plusieurs fois à changer d'identité, à titre d'exemple, en un juste et bienfaisant maire, Monsieur Madeleine. Se réfugie avec Cosette dans un couvent, simule sa mort, etc., etc. Finalement, Javert, face à un terrible dilemme, lui se suicide. Ce que je viens de vous la narrer là n'est qu'un quart du roman. Victor Hugo nous dresse là un portrait de la misère qui règne chez les pauvres gens de cette époque, en véritable témoin de son temps. Ah, quel roman, Les Misérables, époustouflant, exceptionnel, prodigieux, on ne peut trouver assez de qualificatifs pour rendre justice à ce chef-d'œuvre. Les intrigues sont incommensurablement passionnantes, envoûtantes à suivre. Il anime en nous une soif de continuer sans cesse l'histoire, un chef-d'œuvre tant dans le récit que dans le style de l'écriture hugolienne. Balzac était un grand romancier, Baudelaire un grand poète, Molière un grand dramaturge. Victor Hugo était les trois à la fois, et il montre là tout son talent. Quant au style de l'écriture donc, mais que dire? Après tout, c'est Victor Hugo, pouvons-nous attendre meilleur? Ici, Victor Hugo a participé au rayonnement même et au prestige de la langue française, guère étonnant qu'il soit étudié dans les classes de français et lu partout dans le monde, et qu'il a donné naissance à nombre d'adaptations cinématographiques et autres. Hugo emploie pour ses personnages type l'argot, renforçant l'effet escompté de réel et qui donne du piquant au récit. Mais qui plus est, la langue d'Hugo est si riche en vocabulaire. Et puis, bien sûr, ce qui est caractéristique de Victor Hugo, et plus encore dans Les Misérables, ce sont les digressions, c'est-à-dire un développement qui s'éloigne du sujet initial. Elles peuvent aller de quelques phrases à une cinquantaine de pages, nous décrivant avec détail la bataille de Waterloo. Ainsi, parfois, il partait dans une direction qui me désarçonnait, comme donc lorsque je me suis retrouvé sur le champ de bataille de Waterloo. Mais il me prévenait toujours en me disant « C'est nécessaire à la compréhension de l'histoire, patience. » Alors, je l'écoutais, lui et son style suranné, ses tournures de phrases poétiques au charme incontestable, des mots maintenant hélas disparus, ramenés à la vie pour quelques instants, et ses jeux de mots attendrissants quand il se voulait sans doute spirituel, percutant et philosophe. Des digressions loin d'être ennuyeuses, dont on a plaisir à découvrir. Et puis, de toute manière, Victor Hugo, un bon narrateur, m'a tout expliqué. Penché au-dessus de mon oreille de temps en temps, il me rappelait que oui, il pouvait revenir en arrière, c'est le privilège du narrateur. D'autres fois, il m'aidait à me souvenir avec des phrases telles « On se rappellera qu'il nous conte réellement l'histoire. Il est avec le lecteur, il nous guide. On ne se lasse pas, jamais avec Victor Hugo. On ne se lasse pas d'apprendre le contexte historique et politique et social de l'époque, les modes de vie, les petits détails du quotidien, les habitudes, les mœurs. » Hugo, c'est aussi ses descriptions merveilleuses. Descriptions de Paris, de ses rues, de ses égouts, des couvents, de l'auberge des Thénardier, etc., etc. Victor Hugo nous donne des savoureux détails historiques qu'on aime, tel Waterloo, bien que certaines informations affirmées par l'auteur sont à prendre avec des pincettes. Mais après tout, c'est Hugo. Le roman est beau et sublime par sa laideur, sa noirceur, car ces misérables, indésirables, on les admire, on les aime. Et une fois arrivé au terme des intrigues, arrivé au mot fin, il se peut que vous cherchiez cette voie au-dessus de votre épaule et que vous vous sentiez en quelque sorte orphelin. Car certaines expériences de lecture sont à part, plus intenses et plus vivantes que d'autres, parce qu'on n'abandonne pas des compagnons de route avec qui on a passé tant de temps, avec qui on a partagé les mêmes émotions. Un livre effrayant par son réalisme et beau par son romantisme. Notre écrivain est pertinent et visionnaire. Dans Les Misérables, Hugo dénonce la misère, d'où le titre. Le manque d'instruction aussi, la prostitution représentée par Fantine, le travail forcé des enfants incarné par Cosette. Les Misérables remplit ce rôle avec brio. Et quelquefois, l'ouvrage se transforme même en essai. Les Misérables, c'est aussi le témoignage d'une époque, d'un combat, d'un engagement pour sortir de l'ombre ceux de l'ombre. Ce monument, monumental, c'est plus qu'une belle histoire, c'est un message, un combat politique, une lutte contre l'indigence sociale. Ici, il s'intéresse à des gens d'apparence sans histoire, les pauvres, les miséreux, autrement dit, une grande partie de la plèbe, du menu peuple, aux grands oubliés. On ressent de tout dans Les Misérables, de la pitié à la révolte, et ce, grâce à la perfection stylistique. Dans ce récit, au-delà du divertissement, Hugo nous amène à une réflexion, au demeurant presque philosophique. Il nous fait réfléchir moralement, il nous pose en pleine histoire des questions ou affirmations philosophiques, sociales, politiques, morales. Lorsqu'on les lit, nous sommes obligés de refermer le livre 2 minutes pour songer un instant à cela. Nous avons un titre d'exemple, une phrase dans Les Misérables, qui résume assez bien l'œuvre. Voici celle-ci. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Mais plus que philosophe, il est révolté et demande à agir, comme le démontre cette autre phase du livre. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Il faut savoir que Victor Hugo écrit une grande partie du livre dans un contexte particulier. Il ne dit pas ce genre de phrase simplement comme ça, et contrairement à d'autres, il est dans les faits fidèle à ses idéaux, à ses valeurs. Ce qui le montre, c'est ce contexte particulier dans lequel il l'écrit. En effet, il commence la rédaction en 1845 avant de s'interrompre. Mais en 1852, Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, par la force devient empereur des Français et instaure le Second Empire, ayant des envies de grandeur à l'instant star de son illustre ancêtre. Or, Hugo est avec ferveur opposé à ce régime, est un fidèle républicain fervent démocrate. Il est très virulent contre son régime, notamment dans ses discours ou dans ses pamphlets, l'appelant notamment Napoléon le Petit. Ça ne plaît pas à l'empereur, de fait, il est contraint, alors qu'il recherchait, à fuir la France pour une île insulaire, Jersey, puis Guernesey, là où il reprendra son œuvre et la publiera en 1862. À la fin de l'Empire et donc son retour, il est acclamé, reçoit les plus belles et excellentes critiques. Pour cause, c'est l'âme française qui est représentée là, l'âme de la révolte contre l'injustice. Ce n'est pas anodin que ce genre de roman reste encore dans les annales d'aujourd'hui, car celui-ci fait partie, selon moi, des romans, des œuvres qui représentent la France, tels les ouvrages de Voltaire pour le combat de la liberté. Ici, c'est la lutte contre l'injustice, les inégalités sociales, cette révolte contre l'indigence sociale et la misère, les valeurs qui encore aujourd'hui nous sont chères. Encore une fois, c'est l'âme française qu'on retrouve dans ce roman. Je pense que cette œuvre fait partie même et intégrante du patrimoine. Victor Hugo incarne ici le mieux la France. Voilà pourquoi c'est le plus emblématique, le plus grand roman de la littérature française. Il y a des livres qui demeurent dans les pensées, écrits il y a plus d'un siècle ou non, des livres qui marquent à vie, laissent une empreinte sur nous, ne seront jamais désuets, seront éternels, livres dont les leçons sont gravées dans la mémoire, des livres qui sont l'essence même de la littérature, des livres qui ont peint leur temps, leur ère, leur époque, leur misère, et qui l'ont retranscrite par des mots, des livres qui doivent rester dans les mémoires, et doivent être lus au moins une fois dans sa vie. Les Misérables en font incontestablement partie intégrante. Soit, me direz-vous, il fait plus de 1000 pages, mais c'est plus de 1000 pages de pure merveille. Vous ne comptez plus les pages quand vous êtes dedans, dans l'intrigue. Cela en vaut la peine, croyez-moi. Dans l'intrigue, vous le serez avec Les Misérables. Il vous transpercera, Victor Hugo vous transpercera de sa plume et de son génie. Vous serez bouleversé. Vous ne serez plus les mêmes après cette lecture. Parler pour ne rien dire, noircir des pages inutilement de façon superflue, absolument pas, pas dans Les Misérables. Il vous faudra lire ces plus de 1000 pages, arrêter le temps, savourer les mots pour vivre l'œuvre, la ressentir, la comprendre pour vous balader avec Victor Hugo, et par pitié, ne lisez pas de version abrégée. J'ai horreur de cela. Vous perdez trop de choses, vous perdez complètement Les Misérables, l'histoire, le sens même d'où veut nous amener l'auteur. La version abrégée revient à lire un simple résumé de l'histoire prenant les grands faits de l'intrigue et seulement cela. En bref, c'est simple, clair, net, précis, concis, limpide, évident, voici notre mot d'ordre. Lisez Les Misérables et faites-le lire autour de vous, vous ne le regretterez pas, impossible. Lisez-le, comprenez-le, analysez-le, imprégnez-vous du texte, vivez-le, et ainsi seulement vous comprendrez. Comme tous les grands classiques, il est immortel, et parce que l'importance de Victor Hugo va au-delà de la littérature, c'est un discours politique contre la misère. On peut faire écho à son discours devant la sorte d'Assemblée nationale de l'époque, à son célèbre discours sur la misère, où il disait la chose suivante. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. En soi, Au final, Victor Hugo est un homme révolté, un homme voulant changer le monde, le rendre meilleur. Certains disent que l'espoir est le pire ennemi de l'homme. Mais continuons d'espérer. Et peut-être nos espoirs se transformeront-ils en vérité. Et puis après tout, d'autres disent aussi, l'espoir est ce qui fait vivre, fait animer l'homme. Et tel est le résumé de notre vie. Nous vivons jusqu'à notre mort en œuvrant et en espérant pour qu'elle s'améliore et s'améliore pour les générations à venir jusqu'à ce que mort vienne. Continuons donc d'espérer et ne soyons pas pessimistes, car là où il n'y a plus d'espoir, il n'y a que désolation et désespoir, et la vie n'a plus de sens, de raison et de rationalité. Et que nous n'en soyons pas par les fêtes, d'abord avec nous et avec les autres, après. Nous qui avons accès à l'éducation, profitons-en pour ne pas devenir misérables. Pour Victor Hugo, tout réside dans l'instruction, l'éducation. Et c'est ce qui permet à un homme de ne pas être indigent et d'être omni de tous, tels ces pauvres misérables. Voici, en guise de conclusion, un extrait de la préface des Misérables, écrit par Victor Hugo. Tant qu'il existera, par le fait, des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes et à point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Quoi qu'il en soit, merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.